Vous êtes bien sûr _ à l'écoute de Radio Méga. S'il existe un domaine qui me touche, c'est bien celle des claviers. Notre ami qui a la frite profite donc de l'occasion pour vous en parler, alors tendez votre oreille et laissez-vous bercer par la musique.
Bonjour Améman.
Bonjour Cécile.
Eh oui, parce que cette semaine, Melbel est de retour pour vous parler de claviers. Et bien sûr, nous allons effectivement passer à l'actualité.
Alors, qu'est-ce qu'on a à l'actu ? Alors, juste le lancement de la campagne de dons pour la quadrature du net, on vous avait annoncé, ça y est, le site est en ligne, enfin j'espère, parce que nous, on enregistre un peu avant. Mais normalement, c'est fait, donc donner.
C'est donné, hein.
Voilà, et puis, il y a les fails du mois.
Attention, on va regarder tout ça. Donc, mise en œuvre par la CNIL pour l'absence de consentement sur le recueil des données de géolocalisation.
Ouais, mise en demeure. Et puis, encore une mise en demeure de la CNIL, cette fois de 5 sociétés d'assurance pour le détournement de finalité des données de leurs assurés.
Ah bon ? Ils détournent nos données ?
Ouais, et à jamais 203, la CNIL met en demeure l'école 42.
C'est pas vrai ?
Ouais, alors je cite mot de passe en clair, mot de passe faible transmis en clair, caméra sur accès aux sanitaires et espace de pause. On se demande si c'est pour la surveillance ou du contrôle. Commentaire très intrusif dans la base de données étudiants, dépression, mère atteinte de cancer, enfin des trucs
super,
qui n'ont rien à faire là-dedans, quoi.
Des failles de Facebook les plus grosses que l'on pensait.
Ouais, on avait annoncé des failles sur Facebook et apparemment elles sont un peu plus grosses que ce qu'on avait dit. Alors les armes du Pentagone très facilement piratables avec des outils de base.
Ah, génial. on va pouvoir lancer des scripts qui lisent.
Ouais, et une vulnérabilité zero day dans un plugin jQuery permettrait de télécharger et d'exécuter du code malveillant sur des serveurs PHP depuis 2010.
Ça, c'est pas bon, hein. Oh, une porte ouverte dans Google Home qui permet à n'importe qui de la contrôler depuis le réseau local.
Ouais, suffit d'envoyer le bon paquet, quoi. Enfin, voilà, c'est sympa.
Waouh, des applis qui notifient leur éditeur quand vous les désinstallez.
Et oui, en fait, si vous les supprimez de votre téléphone Android, en fait, ils utilisent un mécanisme qui permet en fait de savoir quand vous les désinstallez. Enfin,
c'est gentil, ça.
Un trou de sécu dans systemd et puis un dans Xorg, sous Linux, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Et puis enfin, une caméra IP D-Link qui envoie des flux vidéo non chiffrés et sans mot de passe unique.
Ça, c'est agréable,
normal,
dis donc.
Normal.
C'est normal. Eh bien...
Bon, on embraye directement sur le sujet parce qu'il est un petit peu long. Hein. Medbel est très prolixe en texte.
On l'adore et puis en même temps, c'est un sujet sur de la musique, hein, des synthés. Donc, nous allons vous proposer effectivement ce sujet. Alors, les synthétiseurs les plus importants de l'histoire de la musique électronique et les musiciens qui les utilisent. Donc, comment le synthétiseur est devenu un élément crucial de la musique moderne ? Nous allons retracer l'évolution d'un instrument au cœur de l'écriture des chansons du XXe siècle, en se plongeant dans des célèbres et les plus surprenantes chansons sur lesquelles il figure. Le synthétiseur est aussi important et omniprésent dans la musique moderne que la voix humaine. Le concept est assez simple, un circuit de base qui génère une tonalité qui peut ensuite être contrôlée par une sorte d'entrée, humaine ou non. C'est un concept qui a fourni l'épine dorsale d'innombrables instruments au cours des 100 dernières années environ, que l'on le veuille ou non, a guidé l'orientation de la musique moderne à la fois pour le grand public et dans le underground. De nos jours, il est assez facile de démarrer votre copie d'Ableton Live ou de Logic, tous deux éditeurs MIDI et audio, et d'ouvrir un nombre illimité de synthétiseurs VST, on appelle ça des synthétiseurs virtuels.
Ouais, c'est de la triche, hein.
Ouais, mais bon, quand tu peux pas avoir un Steinway chez toi, c'est quand même bien, hein.
Ça prend moins de place.
Vous donnant ainsi l'accès à des décennies d'innovations technologiques, il est toutefois important de savoir comment le son ont pris racine et pourquoi ils ont si bien réussi. Parfois, c'était simplement le fait qu'il n'y avait pas de concurrence, le Minimoog, et parfois, le succès était tout simplement dû au prix et à la disponibilité comme MS-20. Nous allons parler de quelques-uns instruments clés qui ont contribué à façonner la musique électronique et vous serez peut-être surpris de voir combien d'entre eux se trouvent au centre de vos pistes préférées. Alors nous allons parler déjà de l'EMS VSC3. Alors il est sorti en 1969, hein, donc ça ressemblait à quoi en fait un VS3 ? Waouh. Et en musique, ça donnait quoi?
Alors en musique, ça donnait ça.
Alors il a été conçu pour être économique, portable et facile à programmer ou correctif. Et le studio numéro 3 Voltage Control Studio de la société britannique EMS aurait pu devenir la norme du secteur dans le successeur de Bob Moog. Surnommé The Pugnay, d'après le siège d'EMS à Londres, le VCS3 était essentiellement un synthétiseur modulaire. Mais au lieu de câbles raccordement, EMS avait mis au point une petite matrice 16x16 notoirement délicate, qui était utilisée pour contrôler le routage interne du synthétiseur. C'était excellent pour la portabilité, mais rendait le synthétiseur incroyablement imprévisible, car l'impédance des différentes broches variait juste assez pour qu'un patch ne sonne presque jamais deux à la fois de la même manière.
Ah, vive les faux contacts en plus.
Ah oui, ça donne vraiment une caractéristique vraiment unique. En raison de son caractère effectivement unique à l'époque, premier synthétiseur véritablement disponible pour le grand public et de son prix très modique, le VCS3 connaît un succès retentissant, offrant à EMS une part de marché à la hauteur des concurrents rivaux Moog et ARP. Malheureusement, après plusieurs lancements ratés et un déménagement de Londres à Oxfordshire, EMS a connu un déclin irréversible à la fin des années 70 et la société en faillite a été vendue. Cependant, en 1995, Robin Wood a acquis les droits sur EMS et a donc commencé à construire et à vendre le VCS3, ce qui prouve que le marché des sons de synthétiseurs de science-fiction est loin de se tarir. Le VCS3 était étrange et il ne va pas sans dire qu'il a fini par devenir un tel standard de science-fiction qu'il était tellement bizarre que la plupart des musiciens ne savaient même pas comment en tirer de vraies mélodies, ce qui incitait certains à le qualifier d'unité d'effet volumineuse et coûteuse. Ceux qui ont persévéré ont été récompensés et le synthétiseur à la sonorité bizarre était un trésor sans fond de pop, de bruit et de gémissement particulier. Le fait que vous puissiez y jouer avec une manette de jeu, comme John Paul Doe du Led Zeppelin, le clavier était vendu séparément. Il n'a fait qu'ajouter à son charme. Qui l'a utilisé? Même s'il n'avait pas autant de synthétiseurs, ce qu'il... En préférant la technique de la musique concrète, Delia Derbyshire a l'un été le plus important pionnier de l'EMS VCS3, qu'elle a largement utilisé dans son album White Noise, un Electric Tempête, et même persuadé la BBC d'acheter quelques unités pour l'atelier radiophonique. Ce n'est pas assez surprenant, car elle a été un ami proche du fondateur d'EMS, Peter Zinoviev, tous deux membres fondateurs de l'Unit Delta Blues, une organisation dédiée à la promotion de la musique électronique et de la machine qui avait été conçue par un compositeur occasionnel de Dr. Who et le cofondateur de MS Tristram Carré. Alors effectivement, on peut retrouver ce synthé dans White Noise Love House Sound de 1969, Hawking Silver Machine, Roxy Music Ladytron, Edgar Froese Upland, Portishead We Carry On en 2008. Et puis, nous avons un autre synthétiseur, l'ARP Odyssey. Il est sorti en 1972. Alors, ça ressemblait quoi, alors?
C'est l'alarme des pompiers, ça.
Et en musique, ça donnait quoi? Très chaloupé, hein. Alors l'extrait musical, c'est Herbie Hancock, Chaméléon. Alors Moog avait réussi à créer un nouveau marché pour les synthétiseurs portables et conviviaux. Et le fabricant américain ARP savait qu'il en avait besoin d'intervenir sur le terrain. Leurs unités modulaires 2500 et 2600 encombrantes étaient populaires et incroyablement utilisées. Mais c'est le plus petit concurrent de Mini-Moog, l'Odyssée, qui a véritablement captivé l'imagination du public. Le synthétiseur était fondamentalement allégé d'une version du Numé 600. Il s'est avéré être le synthétiseur le plus vendu de la société, considéré par beaucoup comme inférieur au Moog, puisqu'il ne possédait que deux oscillateurs, et que le Mini Moog était doté d'un filtre comparativement limité. L'Odyssée était en fait le premier synthétiseur duophonique au monde capable de jouer deux notes à la fois. Et ouais, quand même! Les premières versions de l'Odyssée, qui comportaient le filtre à deux pôles, il a été ensuite remplacé par une version à quatre pôles pour se faire prendre par le Mini Moog. Était notoirement minuscule, mais conférait à l'Odyssée un personnage à part. On le confond souvent avec le Moog, car de nombreux groupes et studios possédaient souvent deux synthétiseurs, mais l'Odyssée excellait avec des sonorités cuivrées et le genre de son résonant qui caractérisait le son électropop. Eh oui, tout ça quoi. Qui l'a utilisé ? Le synthétiseur a été adopté très tôt par le groupe électronique allemand Tangerine Dream, ainsi que par une petite partie de leur enregistrement au début des années 70, ainsi que par Exit en 1981, et a également été utilisé par le jazzman Herbie Hancock, qu'on a en extrait justement, dont le titre commence par Chameleon, l'impulsion caractéristique du synthétiseur. La mélodie géniale du Gimme 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 d'Abba, en sortie en 1979, a également été interprétée dans l'Odyssée, et a été largement cité comme étant le synthétiseur préféré de l'homme Ultravox, John Fox, de tous les temps. Il l'a utilisé généreusement dans son classique de 1980, Metamatic. Grâce à sa popularité, le synthétiseur pouvait être obtenu à moindre coût et a été acheté par un jeune Richard Davis qui a utilisé l'Odyssée avec Joan Hartkiss pour leurs premiers enregistrements avec Cybotron, ouvrant ainsi la voie à l'électro et à la techno qui vont suivre. Alors les chansons utilisées par celui-ci, donc effectivement d'avant, John Fox, Underpass, Peter Howell, Dr. Wu-Tang, Cybotron, Alley of Human et Nine Inch Nails, The Hand That Feed, en 2005. Le Yamaha CS80, il est sorti en 1976. Et alors ça ressemblait à quoi ? On se rapproche presque du piano. Et mise en musique, ça donnait quoi ? Alors pour ceux qui ont reconnu un petit peu, c'est la musique d'un film. Blade Runner. C'est effectivement Vangelis Blade Runner Blues. Bien aimé des collectionneurs de synthétiseurs, et pas seulement à cause de son prix alarmant, le Yamaha CS80 a été la première contribution réellement exceptionnelle du Japon sur le marché du synthétiseur. Profondément profond, extrêmement inhabituel, ce contrôleur de ruban est bourré de sons qui ne provenaient tout simplement pas d'instruments similaires. Le CS80 était un instrument délicieusement luxueux. Malgré tout, le prix élevé et le poids écrasant du CS80, il pesait 220 livres, ont rendu la vente difficile. Et comme de nombreux synthés de l'époque, il était notoirement difficile de rester à l'écoute. Lorsque le CS80 dut faire face à la concurrence du Prophet 5 et de Sequential Circuit et du Polymoog de Moog dans les années qui suivirent, il fut difficile de convaincre les studios de débourser plus d'argent pour ce qui paraissait du moins en apparence infériorité, instruyant un instrument. Le pauvre CS80 ne disposait que de 26 pré-réglages non programmables à la fois, alors que disposer de grandes banques de son et disposer de la disponibilité de sauvegarder les vôtres commençait à devenir un préalable.
Ouais, et à 220 livres, ça fait presque 100 kilos. Ouais, 99.
C'est très gros. Le CS80 fait partie des vrais polysynths. Ouais. Ce qui signifie que jouer des accords ne pose aucun problème. Il dispose également d'une fonction permettant de superposer des patchs, offrant à l'interprète deux sélections indépendantes à 8 voix. C'était également l'une des premiers synthétiseurs à proposer un clavier sensible à la vélocité, permettant le type d'expression générale associé à de vrais instruments et l'instruction d'un aftertouch. Et là...
Aftertouch, polyphonique.
Ouais. Et ensuite...
Et ensuite, t'es perdu ?
Oui, parce que là...
t'as coupé le texte ? Ouais, j'ai fini alors.
Allez, vas-y, finis.
Mieux encore, il y avait un contrôleur de ruban de grande taille sur le panneau avant qui permettait de contrôler en continu les divers boutons du CS80. Contrairement aux commandes restreintes des autres synthés, le ruban du CS80 permettait de longs virages en douceur et des balayages de filtres gigantesques, ce qui lui conférait une polyvalence à laquelle peu de concurrents pouvaient rivaliser. Qui l'a utilisé ? Eh bien, étant donné le prix, les producteurs de chambres à coucher n'avaient pas vraiment de problème de dos. Et maintenant, emmener leur CS80 sur 3 étages, mais la grosse bête s'est dirigée vers les plus grands studios. Stevie Wonder l'aimait particulièrement bien, l'utilisant apparemment à tel point qu'il a réussi à casser le contrôleur de ruban. Vangelis était également un fervent adepte, l'utilisant d'abord pour Spiral en 1977 et pour la plupart de ses albums successifs. À bien des égards, il s'agissait de son arme secrète. La bande-son incroyablement influente de Blade Runner de Ridley Scott était presque entièrement composée de presets CS80 à peine édités, sérieusement, ouais. Tout comme son thème Chariots of Fire.
L'atelier Erdofeig de la BBC avait également un CS80 dans sa collection depuis quelques temps. Peter Howell, technicien d'atelier, était tellement désespéré de vouloir mettre la main sur l'un des synthés les plus chers qu'il a pratiquement supplié la BBC d'en acheter un. Heureusement, il figurait sur une grande quantité de bandes sonores de Dr. Who dans les années 80 et ils étaient utilisés d'une manière mémorable pour créer des sons aigus modulés en anneaux qui ouvraient le thème musical. Alors par exemple, on va le retrouver dans Brian Allo de Julie Witts, Paul McCartney, Wonderful Christmas Time, Klaus Schulze, Silent Rain et Toto Africa. Nous allons passer au Korg MS-20. Il est sorti en 1978. Et alors, ça donnait quoi ? On se rapproche du son modulaire, tu trouves pas ? Très techno.
C'est un peu nasillard.
C'est un petit peu nasillard, très très modulaire.
On entend carrément le bruit des touches comme sur un orgue presque.
Un peu le cas, ouais. Et en musique, ça donne quoi ?
Oh yeah, I used to know Quinnan. He's a real jerky.
On est sur de la musique techno. Et oui, avec Monsieur Ozio, Flat Beat. Loin d'égaler l'énorme et puissant processeur 2600 d'ARP, le MS-20, relativement portable de Korg, propose un mélange similaire de connexions câblées et raccordables. Il faisait partie de la deuxième génération des monosynthes de la société, avec son petit frère, le MS-10. Et bien que son apparence dominante ait attiré de nombreux utilisateurs de musiciens, ils ont été déçus de constater que cela sonnait absolument pas comme le Mini Moog. Au lieu de cela, le MS-20 était minuscule et difficile à contrôler. Si vous ne saviez pas exactement ce que vous faisiez, vous vous retrouviez souvent avec les sons inutilisables. Le MS-20 et les MS-10 étaient le genre de synthé que vous ne pouviez trouver à la fin des années 80 et au début des années 90, accumulant la poussière dans les brocanteurs et les magasins de musique. C'est probablement cette disponibilité qui a motivé la renaissance du synthétiseur après une surabondance d'utilisation au milieu des années 90. Le prix du MS-20 a explosé à ce titre. Depuis, il a atteint un niveau record, amenant une retouche logicielle avec un contrôleur entièrement fonctionnel et un remerque analogique approprié. Le MS-20 était doté de 2 oscillateurs et de 2 filtres, ce qui conférait au synthétiseur des résonances caractéristiques et un son grave, bas et très très grave. Il était donc également doté d'un processeur de signal externe assez unique qui permettait soit le contrôle du synthétiseur à partir d'une source de son externe, soit la manipulation de son externe via les filtres robustes du MS-20, ce qui donnait aux musiciens plein d'options d'abus habituellement réservées aux nerds du modulaire. Voilà ce qui aussi m'a rappelé un peu le son, et au son du studio. Et c'est cela, et c'est la capacité du synthétiseur à sonner comme des robots à hockey ou à des siphons saillants, ce qu'il a vu gagner de nombreux adeptes au cours des 30 dernières années. Alors, qui l'a utilisé ? Pour une raison quelconque, probablement le prix, soyons honnêtes, l'utilisation du synthétiseur a semblé bouillonner dans les années 90, avec un regain d'intérêt en provenance de France. Daft Punk a utilisé le MS-20 pour créer son hymne épique Daft Punk. Le duo de pop psychédélique Air l'a utilisé pour manipuler sa voix sur Sexy Boys. Et le plus célèbre encore, Monsieur Wazio, voilà, qu'on aime tous, enfin moi j'aime beaucoup, il a utilisé le synthétiseur pour créer la ligne de basse. La bande-annonce publicitaire de Levi Flatbeat, Allison Goldfrapp, a également été repérée à l'aide du synthétiseur qu'elle contrôlait par sa voix. Alors effectivement, on peut le retrouver dans OMD Bunker Soldier, Daft Funk, R, la femme d'argent, Monsieur Ozio Fat Beat, Félix Cumin, Japan, en 2003. On peut s'apercevoir que, c'est dans les vieilles casseroles que l'on trouve l'inspiration du son bien vintage des synthétiseurs qui ont marqué nos chansons préférées. C'est souvent par un accident musical que le son est sorti, via des fameux oscillateurs, l'improvisation et le maître mot. Pour la plupart des musiciens professionnels, les instruments cités n'ont jamais été remplacés par d'autres techniques, parce que tout l'art de l'improvisation est dans ces machines qui permettent une infinité d'événements sonores. Ainsi va toute la musique.
Wow.
Voilà.
Merci Maître Bell.
Merci Maître Bell de nous avoir transportés dans cet voyage musical à travers des synthés qui ont marqué notre époque. Et nous allons passer tout de suite à l'agenda.
Alors, comme d'habitude, si vous nous écoutez le samedi, c'est l'agenda de la semaine qui vient de s'écouler. Mercredi après-midi du Libre Linux 07, donc il y en a un de prévu le 21 novembre. Donc pour se rencontrer entre utilisateurs de GNU Linux et découvrir et comprendre l'enjeu et les possibilités du logiciel libre. Donc ça, c'est au bar L'Estaminé à la Mastre, donc en Ardèche, le mercredi 21 novembre de 13h30 à 19h30.
Ah, vous avez une cookies party!
Ouais, la cookie party, ils ont changé la date. Alors c'est du 30 novembre au 1er décembre à Folie Numérique à Paris. Donc c'est un peu loin, mais c'est les copains, on fait coucou.
Ouais, nous vous rappelons que la cookies party, en fait, c'est une démo party. Donc c'est vraiment dédié à l'univers de la démo scène. Pour tous les passionnés de cet univers, vont se retrouver pendant ce week-end pour faire de la création numérique, comme on peut faire aussi à nos événements, à l'alchimie. Mais c'est vraiment intéressant à faire. Et
à voir aussi ce que font les autres.
C'est ça. Mais même si c'est un peu loin, je pense qu'on va essayer d'y aller.
Voilà.
Il y a la deuxième édition du Hackathon de Drôme.
Oui, donc développeurs, designers, makers, créateurs, bidouilleurs, venez participer à 48 heures de marathon créatif pour inventer et prototyper des solutions pour aider les personnes fragilisées à être le plus autonomes possible. Oui, donc c'est la deuxième édition. Et ce coup-ci, c'est le thème, c'est aider les personnes en dépendance. Donc, ouais. Il y a 35 places de disponibles. Donc, les inscriptions se ferment le 23 novembre. Et il y a 10 euros de participation parce qu'il y a le repas et tout. Et les locaux mis à disposition. Voilà. Hébergement, c'est à la charge du participant. On peut s'arranger après avec des gens du coin. Donc toutes les infos, le bulletin de description sont sur leur site internet. On vous mettra le lien sur AAA.fr.
Et même qu'il y a une formation gratuite à l'impression 3D.
Pour ceux qui s'inscrivent, le Vite Fab Lab propose aux participants qui le souhaitent une formation gratuite à l'impression 3D et à la découpeuse laser le vendredi 7 décembre de 16h à 20h30. Comme ça permet de se former avant et pas pendant le hackathon parce qu'on n'a pas le temps. Donc le hackathon lui-même, c'est les 14, 15 et 16 décembre 2018 au Vite Fab Lab, donc 8 rue Courcomer à Cré.
Et puis, nous allons frotter la boule de cristal. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus ?
Sysadmin. Bon, ok, le format zip est assez ouvert, mais moi, je l'ai utilisé sur le tard.
Nerd, on fait...
Chrome en a dit. Codeur, on va réécrire Christine en Go.
Microsoft. Le BS.
Le Bzod.
Le Bzod à
de
Blood.
De Bzod à Blood.
Ah oui, de Bzod à Blood. Il n'y a pas tant de différence en fait.
Graphiste, bonjour, je voudrais faire un passeport. Bien sûr, asseyez-vous. Votre prénom, Victor. Nom de famille, Yel. Taille, c'est variable, mais sans perte de qualité. Oui, Victor Yel.
Victor Yel. Ça, c'est très bien, ça.
Eh ouais. Et musicien, bah, à votre santé, hein, à votre santé, Maître Belle.
Eh bien, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés sur Radio Mega. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur AAA.fr, mais aussi si vous tapez sur iTunes, _, vous allez tomber sur deux liens possibles, _ américain et _ français, qui est en fait nous.
Ouais.
Et vous allez pouvoir retrouver tous les épisodes depuis plus de deux ans.
On ne fait pas de version américaine encore.
Non, on ne fait pas de version américaine. Okay. On laisse ça aux Américains.
Ok. Bon, la semaine prochaine.
À la semaine prochaine pour un nouveau sujet que nous vous dévoilerons.